Alors, je pense que la fois passée, nous avons pu étudier, si je me souviens bien, la structure de l'épître, et nous avons vu un peu comment les choses s'organisent au sein de cette épître. Nous avons vu que l'épître de Jacques n'est pas composé de diatribes ou de parties ou de sections très disparates, sans lien les unes avec les autres, mais qu'elles forment une unité que garantit le fait que c'est une lettre qui correspond à une forme épistolaire reconnue à l'époque de Paul, et de Jacques aussi, plutôt de Jacques, parce qu'on est dans Jacques, ben, je suis un peu perdu, moi. J'ai un gros rhume, alors si jamais je divague un peu, c'est pas grave. Bien, c'est le rhume. Alors, donc c'est une forme reconnue avec une double introduction, un corps de lettres et une conclusion qui renvoie à l'introduction. Des choses assez classiques, mais qui garantissent d'un point de vue formel l'unité de l'épître. Et nous avons vu que l'épître est organisée autour de trois thèmes principaux que j'ai intitulé ABC dans ma structure de l'épître. Le premier thème tourne autour de l'épreuve et de la tentation. La communion devient de plus en plus étroite. Oh, c'est cool, c'est bien. Donc un premier thème, c'est l'épreuve et la tentation. Ça, c'est le négatif. Le positif, c'est la patience, ou la persévérance, la constance. Le thème A. Puis nous avons vu que l'on retrouve dans cette épître un thème B qui tourne autour du thème de la sagesse, avec comme élément essentiel de la sagesse la parole, l'usage de la parole, avec des thèmes connexes, si vous voulez, la prière aussi, colère, et ce genre de choses. Et troisième thème, c'est le thème de la richesse et de la pauvreté. Et ce que je vous propose donc aujourd'hui, alors je ne sais pas si... non, on n'a pas le temps. Pas eu le temps de dire certaines choses la fois passée, mais on ne va pas perdre de temps. On va tout de suite aborder maintenant l'étude de certains textes clés de l'Épître de Jacques. Et le texte clé que nous allons bien sûr étudier, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment le thème le plus important de l'Épître. Enfin, c'est un thème important, si on va y revenir. Mais c'est un thème en tout cas qui a fait couler beaucoup d'encre. C'est le thème de la justification dans Jacques. Et nous allons donc étudier le chapitre 2 de l'épître de Jacques. Chapitre 2 qui, dans mon plan, je ne sais pas si vous avez sous les yeux donc la structure de l'épître de Jacques. Chapitre 2 qui, dans la structure que je propose, fait donc partie de ce thème C, le thème de la richesse et de la pauvreté, qui est repris en deux textes parallèles au chapitre 2, versets 1 à 13, et au chapitre 2, versets 14 à 26. Et nous allons donc nous arrêter aujourd'hui à ces deux textes. J'aimerais bien pouvoir aller un peu plus loin, mais je crains que nous n'aurons pas le temps de le faire. Voilà. Alors, ceci dit, on va passer à ça. Et nous allons donc prendre Jacques 2, 14 à 16, qui est le texte qui a fait couler le plus d'encre concernant l'épître de Jacques. Alors, nous allons tout d'abord prendre le texte, alors on va le prendre en français. Bien sûr, il serait intéressant de le prendre en grec. Je ferai peut-être quelques petites remarques pour ceux qui savent le grec et qui sont parmi nous. Qu'il n'y ait pas trop de frustrés. Mais bon, on peut essayer de travailler à partir du français. Alors, On va d'abord lire ces versets 14 à 26, qui sont donc la deuxième partie de ce chapitre. Nous avons vu la fois passée que l'épître de Jacques est comme jalonné d'expressions techniques, rhétoriques, que l'on retrouve dans les discours et dans les épîtres. C'est mes frères, hein. Et que cette expression introduit ou conclut souvent les sections. Alors là, vous voyez, dans le chapitre 2, vous avez mon papier sous les yeux, là. Hein, donc le papier où je vous propose le texte structuré. Vous avez dans ce chapitre 2, au verset 1, mes frères, que votre foi, notre glorieux Seigneur Jésus-Christ, soit exempte de toute acception de personne. L'acception de personne, c'est du, ce qu'on appelle le favoritisme. C'est du vieux français, exception de personne. Personne ne comprend plus ça quand vous parlez dans la rue. Et vous avez donc une reprise au verset 5, écoutez mes frères bien-aimés, qui s'inscrit dans cette section, on va le voir lorsqu'on va l'aborder. Le écouter introduit un argument par lequel Jacques répond à ce qu'il vient de dire dans les versets 1 à 4. Et vous avez de nouveau un mes frères au verset 14. Et un mes frères qui introduit un autre sujet. Donc on a là bien deux sections dans ce chapitre 2. On peut d'ailleurs remarquer qu'il y a au verset 1 du chapitre 2 un impératif que j'ai souligné, soit exempt. C'est l'impératif qui après va être discuté, si vous voulez, et que l'apôtre Jacques finit au verset 12 par de nouveau des impératifs qui introduisent et concluent. Il y a là une belle prédication, si vous voulez, c'est un développement. On pose des questions, on donne un exemple, on discute de la chose, on argumente et on exhorte à la fin. Eh bien, on a donc là une section qui forme une unité, de 1 à 13. Au verset 14, on retrouve quelque chose de ce type-là. Alors, comment est-ce que l'apôtre Jacques construit son texte, verset 14 à 26. Alors, on va d'abord le lire. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi, ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres, et non par la foi seulement. Rahab la prostituée ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres, lorsqu'elle reçut les messagers, et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans âme est mort, de même, la foi sans les œuvres est morte. Alors, avant d'aborder la structure du passage, relevons simplement une ou deux questions qu'il pose. Nous qui sommes de bons chrétiens évangéliques et qui sommes habitués à lire l'apôtre Paul, et qui malheureusement avons l'habitude de lire tout le Nouveau Testament au travers des lunettes de l'apôtre Paul, sans parfois laisser parler le Nouveau Testament, l'Ancien aussi, hein, pour ce qu'il dit lui-même, pour ce que chaque auteur dit pour lui-même. Nous n'avons pas à enfermer Jacques dans Paul, Paul dans Jacques, Pierre dans Paul, Jean dans Matthieu, etc. Chaque auteur dit ce qu'il a à dire. Et nous devrions étudier chaque auteur pour lui-même. Mais bon, nous sommes tellement habitués à la terminologie paulinienne, et il y a des raisons à cela. Des raisons historiques, des raisons de masse. Il y a beaucoup plus de lettres de Paul que de lettres de Jacques. Bon, nous parvenons difficilement à lire un auteur autre que Paul pour lui-même, pour l'auteur, pour ce que l'auteur dit lui-même. Mais là, il y a quand même des choses qui nous frappent dans ce texte que nous avons lu. C'est bien un texte qui parle de salut. La foi peut être sauvée, verset 14. Ce n'est pas un texte qui parle d'autre chose. On est là dans la problématique du salut et se pose la problématique de la foi et des œuvres dans ce texte qui parle de salut. Et nous sommes particulièrement frappés, quand nous lisons ce texte avec les lunettes de Paul, de voir au verset 23 une citation de l'Écriture. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture: Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Une citation de l'Écriture qui, chez Paul, Galates chapitre 3, Romains chapitre 4, vient à l'appui de sa thèse de la justification par la foi seule, alors que chez Jacques, elle semble appuyer la thèse contraire. Verset 22, tu vois que la foi agissait par ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Verset 21, Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres? C'est quelque chose qui nous étonne. Et l'on n'est pas surpris de voir que Luther, qui considérait, avec raison d'une certaine manière, que la doctrine de la justification par la foi seule est au centre de l'Évangile, que Luther a négligé, un peu méprisé, ou mis de côté cette épître de Jacques qu'il appelait une épître de paille. Mais il l'a laissée dans le Nouveau Testament, tout en suggérant que peut-être il y avait quand même des problèmes en ce qui concerne la canonicité de cette épître. Mais il l'a laissé dans le Nouveau Testament. Alors, il nous faut étudier ce chapitre et voir ce que ça veut dire, essayer de comprendre, pour après, seulement après, nous poser la question, et par rapport à Paul. Je me souviens très bien d'un étudiant qui, après 2, 3, 4 cours, disait: mais non d'une pipe, mais qu'est-ce que vous en pensez? Il n'a pas pu supporter qu'on n'arrive pas à la conclusion qu'il attendait plus tôt. Il nous faut étudier le texte en lui-même, pour lui-même, et pas par rapport à Paul. Ça, c'est à la fin qu'on y arrive. Voilà. Alors, quelle est la structure de ce texte? Comment est-ce que ce texte est organisé? C'est le squelette qui porte le sens. Nous n'avons jamais affaire dans l'écriture à des mollusques, mais toujours à des textes qui ont une ossature. Alors, on a tout d'abord dans les versets 14 à 17 une question suivie d'un exemple et de l'affirmation de la thèse centrale. Alors nous avons au début: mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire que la foi, ce n'est pas les œuvres? Et l'on a après des questions, et puis bon, une affirmation qui est introduite par si un frère, et que l'un et l'on retrouve la même expression: que sert-il, à la fin du verset 16. Ces deux expressions, mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire à quelqu'un, à quoi cela sert-il? À quoi ça sert, cette foi, de dire va en paix, etc., etc., s'il n'y a pas les œuvres qui accompagnent? si ce que l'on dit n'est pas accompagné par ce que l'on, de ce que l'on fait. En grec, deux fois Tito Ophelos. À quoi cela sert-il? Et là, on a une construction assez intéressante, d'ailleurs. On a une question, au verset 14, la fois peut-être sourire. Hein. Puis on a une phrase qui est introduite par un si. Si, hein, toute la question. Puis on a de nouveau la même construction avec une question, une question. Et puis on a de nouveau un si. Ah, c'est peut-être pas clair, hein. Ah, c'est toute la difficulté lorsqu'on travaille avec le... Vous avez que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres, hein? Voilà. Puis vous avez une question, la foi peut-elle le sauver? Puis on a de nouveau un si. Si, et cela finit par de nouveau Tito Phélos. À quoi cela sert-il? À quoi cela sert-il si, question, si, Tito Phélos. À quoi cela sert-il? Une structure assez bien organisée. Et au verset 17, on a la conclusion de l'exemple, de ce que Jacques veut dire, qui est introduite par ce « ainsi ». Il en est ainsi. Ainsi aussi, dit le grec, ainsi aussi, verset 17, la foi, si elle n'a pas les œuvres, est morte, kathéotem. En elle-même, on verra ça plus tard. Ah, donc ce ainsi conclut ce que Jacques dit dans les versets 14 à 17. La thèse de Jacques est en présentée au verset 17. Ça va ? Et on jongle un peu entre le grec et le français, ça peut difficile. Puis après, à partir du verset 18, nous avons une objection. Mais quelqu'un dira. Cette section va jusqu'au verset 23. C'est Allah. Allah et Raïtis. Mais quelqu'un dira. Cette objection va jusqu'au verset 23. Le dialogue se poursuit en effet dans les versets 18, 19 et en tout cas le verset 20. Au verset 20, on a « Veux-tu savoir, ô homme vain ?» Là, on s'adresse à la personne qui est liée, en tout cas, à l'objection que l'on a faite au verset 18. Il y a une sorte de dialogue à l'intérieur même du texte qui s'instaure entre quelqu'un et quelqu'un d'autre. Je suis assez imprécis parce qu'il va falloir préciser les choses après. Au verset 21, verset 22 et verset 23, ce dialogue continue. On retrouve au verset 22 le « tu ». « Tu vois ». On a là une deuxième personne du singulier qui montre que ça continue, ce dialogue. Par contre, à partir du verset 24, ça change de nouveau. On passe du « tu » au « vous ». Au verset 22, tu vois que, au verset 24, vous voyez que. Et il semble donc qu'à partir du verset 24, Jacques ne se situe plus dans ce dialogue entre quelqu'un qui objecte et quelqu'un qui répond. On va voir qui objecte et qui répond, c'est un peu compliqué. Entre l'homme vain et celui qui répond. Tu. Quelqu'un dira, tu, montre-moi, tu, hein, voilà. Il ne se situe plus dans ce dialogue. Et à partir du verset 24, Jacques, de nouveau, s'adresse directement à ses correspondants, auxquels il écrit. on est de nouveau dans le vous. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Et c'est là qu'apparaît de nouveau l'exemple de Rav. Donc il y a trois parties. Verset 26. Le verset 26, en fait, reprend la conclusion à laquelle Jacques était parvenu au verset 17. Avant que n'intervienne l'objection du verset 18. Hein, verset 17, il en est ainsi de la foi si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Verset 26, comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. On a là une affirmation parallèle. Donc on a mis à trois parties. Ça va, vous avez suivi, c'est assez clair? Première partie, verset 14 à 17, la question fondamentale. Une telle foi peut être sauvée. Avec un exemple et une affirmation fondamentale, la foi sans les œuvres est morte. La seule foi, ce n'est pas les œuvres, elle est morte. Une objection et une discussion au sujet du rapport entre la foi et les œuvres, versets 18 à 23, entre deux personnes. Je te montrerai, tu, etc. Puis dans les versets 24 à 26, Jacques reprend son dialogue avec ses correspondants et montre, après avoir répondu, après que les objections aient pu être supprimées, montre qu'il a bien raison de dire que la foi sans les œuvres est morte. Voilà, ça va ? Voilà donc comment Jacques développe son argument. Il nous faut maintenant reprendre ces versets par groupe dans les différentes sections. Alors tout d'abord, il me semble intéressant de souligner que à l'occasion de... C'est en mentionnant le problème des relations entre les riches et les pauvres dans la communauté que se pose la question de la relation entre la foi et les œuvres. Cette question n'est pas simplement une question théorique pour Jacques. C'est une question très pratique, très concrète, qui fait partie du thème grand C dans la structure de l'épître. Jacques, là, parle de problèmes concrets, de difficultés que les chrétiens connaissent dans les églises auxquelles il écrit. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il ? Alors, en disant à quoi cela sert-il, il suggère... La question porte peut-être à quoi cela leur sert-il à eux d'agir ainsi. Ils vont rien avoir à manger, ils vont repartir en ayant plein de mots pieux en tête. Mais Jacques, certainement, reprend à l'occasion de ce problème qui a dû exister dans les églises. Jacques reprend ce qu'il dit au verset 14. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? À quoi cela te sert-il à toi? De quelle utilité ça t'est-il de dire à quelqu'un « va en paix », etc. Mais si tu ne fais pas les œuvres auxquelles on s'attend d'un chrétien, ta foi, à quoi cela te sert-il de croire, de dire que tu crois? J'aimerais souligner que dans la première partie du chapitre 2, que nous aborderons après, on se trouve dans un contexte identique, relation riche-pauvre au sein de l'Église. Verset 2, chapitre 2, verset 2. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Si tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites « Toi, assieds-toi ici à cette place d'honneur. » Et si vous dites au pauvre « Toi, tiens-toi là, debout. » Ou bien « Assieds-toi au-dessous de mon marchepied. » Ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne jugez-vous pas sous l'inspiration de vos mauvaises pensées. C'est aussi au sujet de ces relations sociales que Jacques va aborder son enseignement du chapitre 2, versets 1 à 13. On se trouve bien là dans une situation très concrète. Alors bien sûr, on peut dire que Jacques invente ces histoires, que ce ne sont que des cas qu'il imagine. Mais lorsqu'on a lu le chapitre 1, l'introduction, et lorsqu'on voit la suite de l'évangile, de l'épître de Jacques, on se rend compte que ces choses ne sont pas seulement des situations tout à fait fictives. Il doit y avoir dans ces églises des problèmes de relations entre les classes sociales, des problèmes réels. Les uns convoitent, ils n'obtiennent pas, et les autres oppriment et s'enrichissent. Oui.
Est-ce qu'on peut aussi faire un parallèle avec certains enseignements du Christ ? Si c'est un contexte d'approche, Jésus était très clair aussi par rapport à certains privilèges, certains accords.
Alors, on va y venir. On va y venir un peu plus tard. Parce que nous ne nous poserons pas seulement la question de savoir quelle est la relation entre Jacques et Paul, mais nous poserons aussi la question de savoir quelle est la relation entre Jacques et l'enseignement de Jésus. Et de se demander comment tout ça, ça marche ensemble. On va y venir. Donc on se trouve face à des situations concrètes. Et cette question de la justification ne se pose pas de manière théorique dans l'Église. Elle se pose de manière très pratique, face à des réalités. Alors, quelle est la thèse centrale de Jacques ? Il l'énonce au verset 17. Ainsi, aussi, la foi, je traduis littéralement, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte. Et puis il y a l'expression kats eotes qui se trouve à la fin donc, du verset 17. Katéotène. Katéotène. Le début de l'affirmation centrale de Jacques est clair. On peut dire avoir la foi, mais cette foi est morte. Pour Jacques, de manière évidente, il y a une foi qui vit et une foi qui est morte. Et il y a des gens de la communauté, des chrétiens, qui peuvent chrétiens, de prétendus chrétiens, on ne va pas, les gens de l'Église, qui peuvent avoir une foi qui vit, et d'autres peuvent avoir une foi qui est morte. Jacques, là, s'adresse à des gens qui font partie de l'Église, en disant que leur foi est morte. Alors, et il va même plus loin, d'après le verset 14, lorsqu'il dit « La foi peut-elle sauver ?» Cette foi que l'on dit que l'on a. Jacques souligne, en voyant les églises auxquelles il écrit, qu'il peut y avoir des gens qui disent avoir la foi, mais que cette foi qui n'a pas d'œuvre est morte, et que cette foi ne sauve pas. Et il oppose, de manière non dite, hein, c'est clair qu'il oppose, ce type de foi que l'on dit avoir, mais qui n'a pas les œuvres, à une autre foi, on le verra plus tard, qui elle est vivante, parce qu'elle a les œuvres. Implicite. Donc un chrétien, les chrétiens, entre guillemets, peuvent avoir deux types de foi, les membres de l'Église. Alors, que veut dire en plus Jacques lorsqu'il dit « Il en est ainsi de la foi que l'on prétend avoir, que l'on dit avoir. » Et là, il crée une église évangélique libre, ou peut-être une assemblée de frères, ou une église baptiste, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est une église de ce type-là à laquelle Jacques écrit. Il y a même eu des persécutions. En tout cas, ce sont des gens qui... Jacques, que dit-il ? Il dit, il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte. Et il ajoute, il précise, il est morte en elle, elle est morte en elle-même, dans le texte. Alors, comment comprendre cette expression que l'on trouve, donc à la fin du verset 17, en elle-même, kathéoten. Alors, je vais regarder dans la Bible du Semeur, comment ça a été traduit, je ne me souviens plus. Verset 17. Eh oui, il en est ainsi de la foi, si elle reste seule, sans se traduire en acte, elle est morte. Alors, vous voyez, vous avez là deux traductions. D'un côté, elle est morte en elle-même. De l'autre côté, si elle reste seule, la foi. Et il faut dire que le mot, l'expression grecque « kat » et « otes » et « otem » pour aussi avoir « kat » et « otem » a été interprété de nombreuses manières. Alors, je vous lis ce que dit un commentateur, Vouga. Je vous le lis simplement. Alors, « nekra estin kateoten », bon, ça c'est la phrase en grec, peut signifier, alors attention, soit que la foi est morte en elle-même, alors entre parenthèses, une foi qui ne s'exprime plus en acte n'est plus la foi, elle est morte en elle-même. C'est du Canada Dry. Elle a l'impression, hein, c'est comme si, mais c'en est pas. Soit que selon elle-même, selon ses propres critères, c'est-à-dire selon ce qu'est la foi dans la prédication chrétienne, la foi est morte. C'est-à-dire que cette foi est morte selon elle-même. C'est-à-dire qu'elle ne correspond plus à la définition que la prédication chrétienne donne de la foi. Par sa propre définition, elle n'est plus la foi. Soit, troisième interprétation, que la foi est morte sur elle-même. Elle est recroquevillée sur elle-même. Elle s'asphyxie. Hein? Comme une foi. Soit encore, troisième interprétation, qu'elle est morte contre elle-même. C'est-à-dire que c'est une foi qui se tue elle-même. C'est une foi qui est une anti-foi. Une foi qui est le déni de la foi. Voilà donc plusieurs interprétations possibles de ce texte. Alors, Vouga lui-même opte pour sur elle-même. Alors, comment interpréter ? Alors, voilà les points essentiels dont il faut tenir compte pour comprendre cette affirmation. Et c'était très pas facile à comprendre. Alors, je ne cite pas toutes les références. Hein, c'est pas un cours d'exégèse. On est bon. La première chose que l'on pourrait penser, c'est que le texte de Jacques dit que la foi, ainsi en est-il de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte kathéoten. Donc le kathéoten est lié à l'idée de mort. Elle est morte kathéoten. Il faut lier kathéoten à morte. C'est ainsi que, par exemple, la Bible de Jérusalem traduit. « Ainsi en est-il de la foi ?» Je traduis, je lis. « Si elle n'a pas les œuvres, elle est tout à fait morte. » Bible de Jérusalem. Elle est morte kathéoten. Le kathéoten qualifie la mort de la foi. La Bible à la colombe, c'est ça. Hein. Elle est morte en elle-même. La foi. C'est une foi qui est morte. C'est le kathéotène, c'est la mort qui est là, hein, dans la foi elle-même. Elle est intérieurement morte, la foi. Et certains s'appuient sur des textes où l'on trouve ce type d'expression, entre autres dans Joseph, auteur juif qui écrivait en grec. Vouga, lorsqu'il parle de sur elle-même, est assez proche de ce type d'interprétation dont je parlais avant. Voilà donc une ligne d'interprétation. Le kathéotène qualifie la mort. Elle est intérieurement morte, morte en elle-même, tout à fait morte. Deuxième ligne d'interprétation, ce sont des gens qui disent que le kathéotène ne qualifie pas l'adjectif mort, mais qualifie le nom foi. C'est la foi kathéotène qui est morte. Comprenez ? J'ai acheté la voiture à Jules. Qu'est-ce que je dis en disant ça ? Est-ce que je dis que j'ai acheté la voiture de Jules, la voiture à Jules, et la voiture à Jules, vous voyez, un peu complément de façon de parler un peu familière, la voiture à Jules. Ou est-ce que je dis j'ai acheté à Jules la voiture ? En fait, c'est la voiture, puisqu'il il a un garage, alors j'ai acheté à Jules la voiture. Vous voyez ? À quoi est-ce que je vais lier à Jules ? Est-ce que je lis à voiture, la voiture à Jules, la voiture de Jules ? Ou est-ce que je le lis à acheter ? J'ai acheté à Jules la voiture. En français, c'est pas clair. C'est le contexte qui nous dit comment comprendre. Et bien là, le kathéotène, c'est la même chose. À quoi est-ce que je vais le lier ? À mort ou à pistis ? Ou à foi ? Alors si on le lit à foi, alors il faut comprendre cette expression comme de la foi par elle-même. C'est-à-dire la foi étant seule. La Taube et la Français Courant et la Semeur adoptent cette interprétation. Je lis, ça doit être la Français Courant, voilà. Il en est ainsi de la foi à elle seule. Si elle ne se manifeste pas en actes, par des actes, elle est morte. C'est aussi l'interprétation que proposent certains dictionnaires, le BAG, pour ceux qui connaissent le grec. Et l'on retrouve cela dans d'autres textes, Genèse 30, verset 40, 43, 32, Maccabée, etc., dans Épictète et dans plusieurs autres textes grecs. Alors que choisir ? Quelle est la meilleure interprétation ? Est-ce que c'est la colombe ou est-ce que c'est la semeur ? Les interprétations que nous avons lues. Est-ce que c'est la foi toute seule ou est-ce que c'est la foi est morte en elle-même ? Est intérieurement morte. Alors, l'interprétation, la foi qui est morte en elle-même, intérieurement morte, peut critiquer l'autre interprétation en disant qu'en fait l'autre interprétation forme une tautologie. C'est-à-dire que on redirait deux fois la même chose. Puisque le texte dit la foi, si elle n'a pas les œuvres, dit le texte, hein, est morte si elle est toute seule. Ben c'est évident, si elle n'a pas les œuvres, elle est toute seule. Alors pourquoi est-ce que Jacques redirait deux fois la même chose ? Si elle n'a pas les œuvres, si elle est toute seule. C'est pas logique, c'est pas normal, bon, hein, spontané, de penser que Jacques se plairait à redire deux fois la même chose. Et donc, l'interprétation, la foi est morte en elle-même, la mort est impliquée dans une foi qui n'a pas les œuvres. elle, cette interprétation, ne répète pas deux fois la même chose. Elle ajoute quelque chose de plus. Vous me suivez? Et cela milite assez fortement en faveur de l'interprétation que propose la colombe. Elle est morte en elle-même, ou elle est tout à fait morte, comme dit la Bible de Jérusalem. C'est un peu la même chose. Jacques ne redit pas la même chose deux fois. La seconde interprétation, cependant, souligne que ce kathéotène est séparé du mot mort par le mot et. Je vous lis le grec littéralement, c'est là qu'il serait intéressant d'avoir le grec. Vous savez qu'à la faculté, vous pouvez avoir un cours de grec à distance, sur une année, 1100 francs, je crois, avec un prof qui vous suit personnellement chaque fois qu'il y a des devoirs, et vous pouvez apprendre le grec en un an. Voilà. Alors, je vous lis le grec mot à mot. C'est affreux ce que je vais faire, mais bon. Ainsi aussi la foi, si elle n'a pas les œuvres, morte est en elle-même. Morte est kathéotène. Et c'est les exégètes de la deuxième interprétation soulignent qu'entre nekra, entre mort et kathéotène, il y a le mot estine, le mot est, qui sépare d'une certaine façon l'adjectif mort de l'expression kathéotène, et qui suggère que kathéotène ne dépend pas de nekra, en tout cas spontanément. On peut discuter, mais l'argument a un certain poids. Et il suggère que l'expression est en fait mise en exergue et soulignée en fin de phrase. Et voici comment on traduirait. Ainsi en est-il de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte. Tiré, étant seul, étant seul. Ce kathéotène reprend le si elle n'a pas les œuvres, mais non par tautologie, non pour répéter simplement une deuxième fois la chose, dit ces exégètes, mais, et c'est ça qui est important, pour annoncer l'objection qui suit au verset 18. Jacques, par ce kathéotène, suggère que c'est la foi, si elle n'a pas les œuvres, est morte. Oui, si elle est seule. Et par ce oui, si elle est seule, il annonce l'objection qui va suivre au verset 18. Cette répétition précisément, cette objection précisément, que nous allons étudier à partir du verset 18, tente de dire qu'on peut avoir la foi seule. Et c'est ce que Jacques annoncerait à la fin de ce verset 17. C'est l'interprétation que personnellement je choisirais. Oui.
Est-ce qu'on peut aussi dire que les versets pensées précédentes, le fait qu'il a donné un petit exemple en tout temps, et que pour verrouiller son exemple, il répète la même.
Si elle est seule.
C'est-à-dire qu'elle ne peut pas contrôler la suite, mais donner une petite conclusion à un développement en répétant des choses, c'est pas la.
Alors, en tout cas, le verset 17 forme cette conclusion. Hein. Ça, c'est, il y a une inclusion entre le verset 14, une telle fois peut-être sauvée, et le verset 17. L'exemple venant illustrer le caractère aberrant d'une foi qui est seule. Et donc le verset 17 conclut et verrouille, ça c'est sûr.
La tautologie est quand même relative, ça c'est une question d'abord, c'est pas une affirmation, etc. Donc,
oui, la tautologie, c'est par rapport au verset 17 lui-même. La foi, si elle n'a pas les œuvres, est morte. Bon, et pourquoi ajouterait-il alors si elle est seule? Il vient de dire si elle n'a pas les œuvres. Donc c'est clair qu'elle est seule. Et la tautologie est entre si elle n'a pas les œuvres et être seule. Et c'est vrai qu'il y a une forme de tautologie. Et l'argument alors est de dire non, parce que ce kathéotène qui vient après le verbe « et », « morte » et « kathéotène ». Ce kathéotène, qui est en fait une tautologie dans le verset 17, ne l'est pas parce qu'il annonce l'objection qui va suivre, dans le raisonnement de Paul. Et n'est donc pas allié à « mort », qui est d'ailleurs séparé par le verbe « être », mais est allié à la foi. Oui. Non. Alors, j'ai pas compris.
Jamais en général,
pas dans ce cas-là, il n'y a non seulement pas de ponctuation, mais il n'y a même pas d'espace entre les mots.
C'est dans votre interprétation, je dirais, la ponctuation, vous faites le travail, on est parti,
Oui, alors moi, j'ai simplement repris la traduction, une traduction... Non, il n'y a pas d'espace, il n'y a rien du tout. Non. Dans le grec, c'était collé, les mots étaient collés les uns aux autres, sans ponctuation, sans... Oui.
Est-ce que le verset 19 parle
On va y venir, absolument. Là, je crois que on se trouve dans... Ces versets vont nous permettre de définir la foi dont parle Jacques. Absolument. Mais ça, on va y venir. Hein. On va étudier l'objection, là. Oui.
Moi, j'ai un petit problème quand on fait une critique de stylistique avec « Ah, mais c'est une tautologie ». Est-ce qu'on peut imposer la stylistique européenne moderne à l'apôtre Jacques, qui vivent à une autre époque, et dans tout le Nouveau Testament, il y a un plaisir évident de tous les auteurs à réutiliser systématiquement le même mot, et il a prié par la prière, des choses comme ça, et puis en fin de compte, ça pourrait être une redondance pour lui, ça peut être très très beau d'avoir fait une redondance.
Bien sûr.
Ça peut être très chaud.
Oui, il y a une cassette qui s'est arrêtée, je ne sais pas ce qui s'est arrêté. Oui, alors là, tout à fait. Alors je crois qu'il faut faire très attention de ne pas juger évaluer les formes stylistiques du Nouveau Testament en les et de la qualité de notre français moderne en le comparant au français du Moyen Âge. Alors c'est encore plus ridicule lorsqu'on le fait entre deux langues différentes, à des époques très différentes, français et grec. Alors ce que j'essaie de faire, c'est de montrer qu'à l'époque du Nouveau Testament, on trouve des emplois de ce kathéotène dans des contextes un peu similaires. Là, il est juste arrivé. On trouve l'emploi de ce kathéotène dans des contextes un peu similaires dans des textes grecs de l'époque, dans Joseph ou dans d'autres textes. Et donc il faut comparer par rapport à ce qu'on trouve dans les autres textes. Mais bon, alors il nous faut aborder l'objection. Ça va, vous avez compris le... Vous tenez, parce que là on fait un peu d'exégèse, hein. On ne se contente pas simplement de survoler le texte. Il nous faut étudier les versets 18 à 23. Et tout d'abord il y a le verset 18. C'est le comprendre. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, moi j'ai les œuvres. Montre-moi la foi, ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai par mes œuvres la foi. Tu crois que Dieu est un, tu fais bien, les démons le croit et il tremble. Alors déjà, c'est deux versets. Comment comprendre cette objection? C'est un verset extrêmement difficile à comprendre. Parce qu'en fait, on s'attend à trouver le contraire. On dit, bon, la foi sans les œuvres, et tout à coup, il y a, donc, mais quelqu'un dira, montre-moi la, toi, tu as la foi, moi j'ai les œuvres, montre-moi la foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai par mes œuvres la foi. C'est juste le contraire que ce à quoi on s'attend. On s'attend plutôt à avoir quelque chose du style, de ce style. Moi, j'ai la foi. Non. Quelqu'un dira, toi, tu as les œuvres, et moi, j'ai la foi. Je te montrerai ma foi toute seule, hein, et toi, tu montreras ta foi par les œuvres. Mais c'est juste le contraire. Qui est dit ? Vous voyez le problème ou pas? Non. Non, mais vous pouvez dire non. Hein. Il en est ainsi de la foi. Verset 17. Si elle reste seule, sans se traduire en acte, elle est morte. Maintenant, on attend une objection. Sur quoi va porter l'objection? Eh bien, c'est quelqu'un qui va dire, mais si, on peut avoir la foi toute seule. D'accord? Mais en fait, c'est pas du tout ce qui est dit dans le texte que vous avez sous les yeux, en tout cas. Puisqu'il dit, toi tu as la foi, moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. On dirait que ce qui est dit au verset 18 va dans le sens de Jacques. C'est qu'il faut les œuvres et qu'on montre la foi par les œuvres. Et qu'en fait ce n'est pas une objection, mais c'est plutôt une confirmation, apparemment. Vous comprenez? Ça va là, vous avez compris? Bien. Alors ça a amené certains à interpréter le début du verset d'une manière différente que ce que vous avez dans le texte qui est sur le papier. De ne pas interpréter, de ne pas traduire par « mais quelqu'un dira », mais de traduire par « oui, en effet ». Quelqu'un dira. C'est ce que ont proposé certains théologiens. Chêne, par exemple. Alors le problème. Alors, il y a plusieurs problèmes. Et d'abord d'expliquer pourquoi une troisième personne intervient en plus de Jacques. Et de ceux auxquels Jacques s'adresse. Pourquoi, si vraiment ce qui est écrit au verset 18 va dans le sens de ce que Jacques veut dire, pourquoi est-ce que Jacques fait intervenir quelqu'un d'autre? Il y a encore une troisième personne, en plus de Jacques et de la communauté à laquelle il écrit. Mais surtout, il y a un problème de grec. C'est que traduire l'expression qu'on a en grec, al ereitis, mais quelqu'un dira, par autre chose que mais quelqu'un dira, est très très audacieux. En fait, alors que l'on trouve plusieurs fois l'expression mais quelqu'un dira comme introduisant une objection, on ne trouve jamais en grec cette expression comme introduisant une confirmation. Oui, en effet, quelqu'un dira. Le mot grec avec ereitis, l'expression globale, les trois mots, introduit toujours une objection, en particulier dans la Bible. Alors comment comprendre l'objection? Comment comprendre cette objection alors qu'en fait cette objection va plutôt dans le sens de Jacques. Toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Alors, il y a eu beaucoup de solutions. J'en ai, il y en a, je pense, au moins une dizaine. D'abord, on se pose la question de savoir où finit l'objection. Est-ce qu'elle finit au verset 19? Est-ce qu'elle finit au verset 18? Est-ce qu'elle continue au verset 20? Est-ce qu'elle continue au verset 21? Etc, etc, etc. Puis après, on va essayer de trouver des solutions en changeant la ponctuation. Parce que justement, en grec, il n'y a pas de ponctuation. On pourrait par exemple dire « As-tu la foi ?» Moi, j'ai les œuvres. Oui. En posant la question, quelqu'un dira « As-tu la foi ?» Point d'interrogation. Puis, « Moi, j'ai les œuvres. » Point. Et on peut changer la ponctuation. Toutes ces solutions sont un petit peu forcées. Et celle que je vous propose de retenir est la suivante. C'est que l'expression « toi, moi » est une façon de dire l'un, l'autre. Ce n'est pas « toi, tu as les œuvres, moi j'ai la foi », comme s'il y avait là un dialogue d'abord entre deux personnes très concrètes, mais c'est une façon de dire l'un a la foi, l'autre a les œuvres. Une façon stylistique de dire cela. Qui peut s'appuyer sur un ou deux textes en grec. Je vous renvoie aux commentaires, en particulier le commentaire de Ropes, pour ceux qui étudient Jacques, qui veut faire un travail d'exégèse, le commentaire de Ropes, qui vous renvoie à quelques textes. L'un à la fois, l'autre les œuvres. C'est comme lorsqu'en français on dit, on utilise par exemple « vous pouvez faire cela » à la place du « on ». Et vous pouvez prendre le train, vous pouvez faire cela, mais c'est un « on » qui n'est personne. C'est un « vous » impersonnel. Alors, quel est le sens de l'objection, si il est juste de comprendre les choses de cette manière? L'objection serait de dire « Jacques, d'accord, ce que tu dis c'est bien, mais, il est possible, en fait, d'avoir la foi toute seule. C'est ça qui compte, d'abord. L'un a la foi, l'autre a les œuvres. Mais la foi, c'est ce qui est essentiel, d'abord. On peut séparer la foi des œuvres. Même s'il est peut-être bien qu'il y a les œuvres, c'est bon. Il a les œuvres. Mais ce qui est fondamental, premier, essentiel, et qu'on peut avoir tout seul, c'est la foi. Oui.
À ce moment-là, l'objection s'arrête au verset même.
Absolument.
Par la suite, la synopie est bon. Il y a la foi par les œuvres, sans les œuvres. Il n'y a plus les œuvres.
Merci. Oui.
Pardon. Verset 18, deuxième partie.
Oui.
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 Il semble que dans notre hypothèse, après, moi j'ai les œuvres, l'objection s'arrête.
Oui, alors donc l'objection s'arrête donc au verset 19, 18, mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Quelqu'un dira, l'un a la foi, l'autre a les œuvres. Et la réponse de Jacques, ou la réponse, ça commence à montre-moi. Alors quand on dit l'un a la foi, l'autre les œuvres, ça ne suggère pas que d'un côté on peut la foi toute seule et de l'autre côté les œuvres toutes seules. Mais ça suggère que l'on peut envisager qu'il est légitime d'avoir la foi toute seule, même si elle n'est pas appuyée par des œuvres. Mais que si la confession de la foi est là, l'essentiel est là. Seul. Et qu'on peut avoir les œuvres aussi. je te montrerai ma foi, oui, je viens. Je te montrerai ma foi par mes œuvres. Oui.
Justement, dans ce sens-là, alors, c'est pas vraiment un conflit, c'est une sorte de variance qui est proposée. Il y a celui qui a la foi sans les œuvres, celui qui a la foi avec les œuvres. Et le montre, moi, c'est beaucoup moins conflictuel. C'est-à-dire, bah, toi, tu me montres ta foi, toi, tu manifestes ta foi sans les œuvres, et puis moi, je la manifeste sans mes œuvres. C'est une variance, et puis on se trouve hors conflit. Par contre, c'est un conflit avec la pensée de Jacques qui dit que la foi est morte sans les œuvres. Je veux dire, moi, je trouve que ça pourrait continuer. Le montre-moi ta foi,
ah, oui.
Je vois la suite. Disons que voilà, toi, tu me la montres sur ça, moi, je la montre autrement.
Oui, on pourrait, mais alors. Bon, il y a la suite alors qui pose un problème, verset 19.
Pour reprendre ce que tu m'as traduit, on pourrait peut-être mettre alors chiche contre moi.
Oui, c'est ça, tout à fait.
Une espèce de d'accord.
Oui. Oui, mais alors là, c'est la réponse. Ce n'est plus l'objection qui continue, mais c'est la réponse, absolument. C'est dans ce sens-là que va la Bible du semeur. Verset 18, je vous le lis. Hein. Mais quelqu'un dira. L'un à la foi, l'autre les actes. Tiré à la ligne. Eh bien, montre-moi ta foi sans les actes, et je te montrerai ma foi par les actes, par mes actes. C'est la réponse qui commence là, hein, dans le verset 18. On dit d'accord, montre-moi ta foi sans les actes. Qu'est-ce que c'est que cette foi? Montre-la-moi.
Oui. Dans cette opposition, l'un à la foi, l'autre les actes. Dans les actes, il y a la foi ou pas?
Oui.
Vous avez entendu ou pas?
Oui, bien sûr.
Où on le déduit.
Oui, alors, bon. Sortons un petit peu du contexte de l'épître de Jacques. Ça, vous suivez toujours? Bon, on travaille sur un texte. Hein. C'est un peu. C'est important. Bon. Sortons un peu du contexte et prenons l'église évangélique du coin. N'importe quel coin. Qu'est-ce que vous dites à l'église? Vous dites, bon, d'accord. L'un à la foi, l'autre à les œuvres. C'est quoi un vrai chrétien? Chers frères et sœurs, c'est quoi un vrai chrétien? Vous dites, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, qui est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, ressuscité, tout ça. Vous dites ça. Je crois en l'Église, la Sainte Église universelle, catholique, et bon. Vous dites, frères et sœurs, croire ça. Et vous pensez que ça suffit? L'autre, il a les œuvres. Et c'est par ses œuvres qu'il montre la foi. C'est pas par sa confession de la foi du dimanche, debout, où je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. L'un a les œuvres, l'un a la foi. L'autre a aussi les œuvres, pourrait-on dire. Mais il a les œuvres, et c'est ça qui compte, les œuvres. Hein? Est-il possible de séparer cela? Comme le diront certains. Ou non? Eh bien, moi, je dis, montre-moi, quoi. Eh bien, montre-moi, chiche. Montre-moi ta foi par tes œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Eh bien, moi, je te montrerai la foi par les œuvres. C'est quoi qui compte, frères et sœurs?
Dans le contexte de Jacques, moi je pense aussi à cette présence parisienne, hein, d'anciens parisiens. Est-ce qu'il n'y a pas dans la pensée juive l'idée aussi que la mise en pratique de la loi, finalement, prend la place de l'adhésion, dans le sens que la loi, l'obéissance pratique est ouverte, finalement se substitue à. Je ne sais pas, est-ce qu'une des pistes. On l'aborde là, mais ce qui est des pistes d'interprétation, c'est celui qui dit ben, moi je te montrerai ma foi par mes œuvres, parce que mes œuvres sont ma foi, pratiquement, dans une certaine pensée judaïque.
Alors on va y venir, on va reprendre cela lorsqu'on reprendra ce que Jean-Pierre disait aussi à propos de tu crois en un seul Dieu, on va y venir. Parce que là on se trouve dans un contexte culturel. Cette objection, elle vient pas d'un extraterrestre qui l'a fait. On est dans un contexte concret, on va y venir. Et il y a quelque chose de cela, de vos deux remarques, mais on va y venir. Est-ce que vous voyez un petit peu le contexte?
Oui. Une dernière question, mais vous l'aborderez peut-être après. C'est pour moi une notion assez assez particulière, et je crois, enfin, j'ai pas en tête à l'instant le bon exemple, où au final Jacques demande à ce qu'on montre, enfin il parle de montrer une croix. Et je n'ai pas en tête d'autres exemples où il nous est, on est appelé à montrer sa foi. Enfin, quelque chose, la foi, a priori, ça se montre pas. Ça se montre pas, ça se dit. Enfin, en tout cas, dans l'église évangélique dont vous parliez du coin, là, hein, la foi, ça se dit. Est-ce que ça se montre?
Alors, ce qui est en tout cas sûr, c'est qu'on se trouve dans une autre terminologie, une autre manière de dire les choses que dans Paul. Dans Paul, la foi est agissante. Elle est agissante par l'amour. Donc, la foi agit. Mais Paul ne dira en tout cas pas les choses de la manière dont Jacques les dit. Paul est beaucoup plus évangélique que Jacques. L'évangélique du coin. Parce que c'est plutôt l'évangélique du coin qui est beaucoup plus formé dans la manière de dire les choses de Paul que dans la manière de dire les choses de Jacques. Et ça devrait... Il faut qu'on réfléchisse, on va y réfléchir après. Hein.
Par exemple, Paul dit « Mettez votre salut en action philippienne, en à la foi, à la foi, en la foi. » C'est quand même bien une façon de dire qu'il faut que la foi se voie.
Oui. Mais c'est sûr que dans Paul, quand il dit « Mettez en œuvre votre salut, hein, Philippiens 2 », « Mettez en œuvre votre salut », c'est l'idée toujours que, oui, il va y avoir, la foi va être agissante. Mais c'est certainement une autre terminologie, on va y venir dans une minute, un peu une autre terminologie que Paul.
J'aurais une question à poser, est-ce que là, Jacques, parce que dans un débat moderne, alors là je situe fort du contexte, mais on a parfois des gens qui vous disent oui, bon, vous les chrétiens, vous croyez en Dieu, mais il y a des tas de gens qui ne croient pas, qui n'en ont pas de foi, et qui font des tas de choses bien, je ne sais pas, la croix rouge, ceci, cela, et on nous les montre un peu en exemple, par opposition à la foi. Là, il n'est pas question de tous ces gens-là.
Non, alors là, dans le texte, il est très clair que Jacques s'adresse à des gens qui confessent la foi chrétienne. Certains se contentent de la confesser, on va y venir, et d'autres vivent cette foi. Et la question est de savoir, c'est-il légitime de se contenter de la confesser? Est-il légitime d'avoir tout le vernis chrétien, uniquement? Est-ce que ce type de foi, ça peut sauver? Ou est-ce que il y a les œuvres, on montre la foi par les œuvres. Quand Jacques dit les œuvres, la foi est implicite dans ces œuvres-là. On va le voir dans la suite du texte avec Abraham et avec Rahab. Il ne parle pas du tout de problématiques beaucoup plus modernes, de gens qui font beaucoup de bien en étant athées, par exemple. C'est pas du tout de ça dont il est question. Oui. Non. Bon, ça veut dire, alors on peut tout de suite dire cela, c'est que nous devrions, le fait d'appartenir à une église évangélique et de confesser la foi, on se situe, disons, parmi les gens auxquels Jacques s'adresse. Est-il la foi, la participation à une église évangélique et la confession d'une foi orthodoxe est-elle suffisante? Est-ce suffisant pour être sauvé? Jacques, sans être assez clair, c'est non.
Quand il est dit dans la confession de Jacob que la foi, moi aussi j'ai des œuvres, j'ai envie de dire que le cœur dit en fait ma foi, c'est mes œuvres. Donc en fait, là, je rejoins un peu la question à la remarque que tu fais par Jean-Pierre, qui disait que finalement, une personne qui m'a rencontré. Moi aussi, j'ai la foi. Regarde, simplement, c'est une foi déclarée, une confession. C'est un peu vers la foi.
Oui, mais alors.
Peut-être, allez, c'est une type d'interprétation que je ne partage pas. Hein, je peux souligner certaines traductions. Je vois la foi.
Peut-être, non, je ne sais pas.
J'ai de la foi, ma foi, c'est mes œuvres. Je ne la confesse pas.
Oui, mais ça, c'est. Je crois que c'est tout à fait légitime.
Je crois que je vois ce que je fais.
Oui. Bon, en tout cas, ce type d'interprétation ne peut pas correspondre au texte. Vraiment, c'est une problématique totalement étrangère au texte. C'est pas du tout. Alors, c'est un vrai problème, mais ça ne, c'est pas ce que dit le texte. Le texte ne parle pas de ça. Oui, mais là, il faudrait vraiment voir la tome. Hein. J'ai pas étudié.
Moi aussi. Là, c'est
et
moi. Et là, et moi aussi.
Oui, moi aussi, c'est légitime, mais c'est la suite
moi
qui est.
À la fois, moi aussi, j'ai l'impression qu'il y a une seule correspondance à la tome, c'est comme ça.
Oui, moi aussi, moi j'ai les œuvres. Moi aussi, moi j'ai les œuvres. Et moi j'ai les œuvres.
J'ai les œuvres.
Oui, mais après, il y a bien la suite.
Oui.
Montre-moi la foi sans tes œuvres, et moi je te montrerai par mes œuvres la foi. Donc, c'est clair que celui qui dit j'ai les œuvres sous-entend que ses œuvres montrent la foi. Dans le contexte, c'est très clair, c'est un contexte d'église où l'objection c'est de séparer la foi des œuvres. Et celui qui dit j'ai les œuvres veut dire par là, moi ma foi je la montre par mes œuvres. La suite du verset est très très claire. Donc la problématique, c'est pas du tout une problématique d'une œuvre sans foi.
Comme s'il n'y a pas de discussion sur la notion de salut, le terme justification sera peut-être différent chez Jacques, chez Paul.
On y viendra. On y viendra. Bien. Non, ça va, c'est bien. Merci beaucoup. Alors, j'aimerais. Donc, on en est donc au verset 8, 18. Hein. Donc, verset 18 et 19. Donc, je vous propose de comprendre que cette foi, que cette objection donc porte sur la possibilité ou non d'avoir une foi seule, sans les œuvres. Alors, cela nous amène au verset 19. Ça marche ? Vous suivez parce que, bon, on essaie de comprendre. Ça nous amène donc au verset 19, où Jacques précise qu'il y a croire et croire. Et là, la réponse à l'objection continue. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons le croient. Et il tremble. Alors attendez, peut-être qu'il serait intéressant, avant, de simplement redire à propos de la fin du verset 18, ce lien entre œuvre et foi, de prendre le début de la réponse de Jacques. On revient juste un petit peu en arrière. Donc, verset 18, le début. L'un dira, mais quelqu'un dira, l'un à la foi, l'autre les œuvres. Le début de l'objection de Jacques, de la réponse de Jacques, ça ne va pas du tout. C'est montre-moi la foi sans tout. Eh bien, montre-moi la foi sans les œuvres, et je te montrerai ma foi par les œuvres. La foi par mes œuvres. Quel est le rôle des œuvres dans ce début de réponse de Jacques? Deuxième partie de verset 18, avant de passer au verset 19. Il me semble que le rôle des œuvres dans le début de la réponse de Jacques, c'est un rôle d'authentification. La foi est authentifié par les œuvres que j'accomplis. Il lui dit, montre-moi l'authenticité de ta foi sans les œuvres. Et bien moi, je te montrerai que ma foi est authentique par mes œuvres. L'idée justement de montrer l'authentification. Les œuvres, donc, dans la réponse de Jacques, ont un rôle d'authentification de la foi. Alors j'aimerais... ont un rôle d'authentification de la foi. Ce qui amène Jacques, au verset 19, à souligner qu'il existe deux sortes de foi. Il y a croire et croire. Verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi, ils tremblent. D'un côté, on trouve la foi non authentifiée, non manifestée par les œuvres. C'est la foi que l'on prétend avoir, du verset 14, si quelqu'un dit « j'ai la foi ». Et de l'autre côté, on trouve la foi authentifiée par les actes. Et Jacques, maintenant, précise ce qu'il entend par la foi non authentifiée. Qu'est-ce que c'est que cette foi que l'on prétend avoir, si quelqu'un dit « j'ai la foi » C'est ce qu'il le fait au verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Oui, non, non. Non, non, mais il dit... Alors, non, on prétend, on dit avoir la foi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? De quel type de foi Jacques parle-t-il lorsque ces gens disent « j'ai la foi » mais qui n'ont pas les œuvres? C'est ça que je veux dire. Ah, c'est pas là, non, je pense pas.
C'est la foi d'une confession de foi correcte.
C'est la foi de la confession de foi. Mais c'est quelque chose de très important. Et Jacques ne cite pas n'importe quelle confession de foi. Il cite le credo fondamental de tout le judaïsme, l'émouna. Je crois en un seul Dieu. Oui. C'est la foi qui peut être perdue. Chez Paul, je ne vois pas très bien à quoi vous faites allusion. Ah, non, on ne parle pas de perdre du salut là. On est dans Jacques et il n'est pas question. Ah non, Jacques justement pose la question. Ça, c'est une foi qui ne donne pas le salut. Ils ne sont pas sauvés. À quoi est-ce que Jacques fait allusion? Il fait allusion au cœur même de la foi juive, de la foi de tout l'Ancien Testament. Le chemin Israël, écoute Israël, le Seigneur ton Dieu, notre Dieu, est un et le seul Seigneur. Et on parlait de pharisiens. Alors ça, c'est fondamental dans le judaïsme. D'abord, on confesse la foi. Et juif fait partie du peuple de Dieu. Celui qui confesse que Dieu est un, que notre Seigneur est le seul Seigneur, et qui confesse toutes les vérités de la révélation de l'Éternel dans l'Ancien Testament. Il nous a sauvés, il nous a libérés d'Égypte, il est venu pour se former un peuple, nous lui appartenons, et en plus il y a assez considéré tout ça, hein. Nous lui appartenons, nous confessons cela. C'est ce qu'on fait à la synagogue tous les samedis. Et dans le pharisaïsme, c'est la chose la plus importante. Confesser la vraie foi. Prenons un exemple plus moderne. On s'arrête d'habitude à quelle heure? À 11h, c'est ça? Bon, dans 5 minutes. C'est ça? Prenons un exemple plus moderne. Qu'est-ce qu'un musulman? C'est quelqu'un qui confesse que Allah est le seul Dieu et que Mohammed est son prophète. Premièrement. C'est quelqu'un, deuxièmement, qui va faire ses prières. c'est quelqu'un qui va donner les aumônes, qui va, si c'est possible, si c'est un homme, faire une fois le pèlerinage. Et qui va cinquièmement, ici encore, ah oui, pratiquer le ramadan. Voilà le vrai musulman. Voilà le vrai pharisien, le vrai juif. Non, c'est, il ne fait pas la même chose. Mais bon. Jésus, tous les jours, a eu affaire à des gens qui confessaient cela, qui disaient cela, qui soulignaient l'importance d'une juste confession qui s'accompagne, bien sûr, d'une pratique rituelle pour les pharisiens. C'est fondamental. Qu'est-ce qu'un bon évangélique ? C'est quelqu'un qui dit qu'il croit en Jésus-Christ, qui prie, qui va le dimanche à l'église, qui va peut-être aller...
Hein?
Ah oui, ah oui.
C'est une pratique suisse alors, parce que c'est pas le cachet. Non. Mais bon. Mais bon, en tout cas, qui donne peut-être de l'argent à l'église. On va. Voilà le bon. Et vous avez là l'exemple, reste qu'un bon chrétien. Mais... Où sont les œuvres ? Partout les œuvres de miséricorde. Pauvres, riches, tout ça. Qu'est-ce qu'un bon chrétien ? Ça peut aller très loin. Est-ce que c'est simplement le fait de pratiquer, de confesser, ou est-ce qu'il n'y a pas plus ? Alors, les démons pratiquent bien. Aucun démon... ne va s'opposer à la souveraineté de Dieu. Les démons le croient qu'il y a un seul Dieu. Leur confession, elle est tip-top, elle est très bien. Mais ils tremblent. Ils tremblent. La foi dont parle Jacques est une foi juive. La foi de l'orthodoxie morte. C'est une foi comprise à la manière juive. De la confession d'une orthodoxie morte, de la pratique d'une orthodoxie morte. Ce n'est pas d'une certaine pratique, bien sûr. Ces gens allaient à l'église. Voilà la foi que Jacques critique.
C'est un peu la même que celle que Jean-Baptiste adresse aux gens qui viennent et qui leur disent par de l'éternel qui vous a prêté la première vie, vous produisez des noms des fruits dignes de la repentance et ne vous mettez pas les romains de leur rapport.
Absolument. Nous avons Abraham pour père, nous avons le temple, Jérémie 7, hein, nous avons les sacrifices, nous avons la loi. Qu'est-ce qui peut nous arriver ? Nous sommes le membre du peuple de Dieu, nous appartenons à l'Alliance. Je confesse que l'Éternel est le Dieu de l'Alliance. Je confesse qu'il est mon Seigneur. Je confesse qu'il est mon roi. Je confesse qu'il est celui qui nous a rachetés il y a 2000 ans. Il est celui qui. Voilà, je confesse tout cela.
Dans le judaïsme parisien, il y a quand même beaucoup d'œuvres pratiquées, et pas forcément que rituelles, il y a aussi des œuvres d'aumône. Le juif se sauve par le bon dîme, par les aumônes qu'il fait.
Oui. Bon. C'est vrai, c'est pas vrai. Dans le pharisaïsme, dans le judaïsme, Sanders s'appelle le pharisaïsme nomisme d'alliance, c'est-à-dire que par la foi je crois que tout ce que Dieu nous a donné nous vient de la grâce, mais je peux rester dans cette alliance au moyen de l'obéissance. Bon, donc l'obéissance est importante, des œuvres sont importantes, mais en quoi consistent ces œuvres? Ces œuvres sont des œuvres qui sont tout entières dans le judaïsme, et c'est à quoi Jean-Jésus s'oppose, imprégnées par une notion de pureté rituelle. L'œuvre du pharisien est une œuvre... Bon. Parenthèse, on a déjà vu ça une fois en cours ici, mais en deux minutes pour bien expliquer, quel est l'idéal du pharisien? Vous savez qu'un juif normal n'était pas tenu d'être dans un état de pureté rituelle identique à celui du prêtre qui va au temple. Le prêtre qui allait au temple avait des exigences rituelles beaucoup plus fortes parce qu'il était en présence de Dieu. Par exemple, il n'avait même pas le droit de toucher un cadavre. Un juif normal, quand il était chez lui à la maison, ben, il touchait les cadavres de ses parents ou de ses enfants qui mouraient. Et c'est au contraire, ils étaient tenus d'une pratique, d'une piété filiale par rapport aux morts qui était extrêmement poussée. Donc, il y avait des exigences rituelles qui étaient pour le prêtre alors qu'il était au temple, et d'autres exigences nettement moins fortes pour le juif normal, et même le prêtre lorsqu'il n'était pas au temple. Quel est l'idéal du pharisien ? L'idéal du pharisien, c'est de vivre dans la vie quotidienne, dans le même état de pureté rituelle que le prêtre au temple. Puisque la proximité de Dieu dépend de ma pureté rituelle, le prêtre est plus proche de Dieu au temple que le juif dans son pays. C'est comme ça que le pharisien comprenait. Je vais donc essayer de vivre dans ma vie quotidienne, dans la même pureté que le prêtre quand il est au temple. Ce qui veut dire que dans ce que je vais manger, dans les, je n'utiliserai pas le même couteau pour couper le beurre et le reste, hein, parce que le lait, tu ne mangeras pas l'agneau dans le lait de sa mère. Donc il ne faut pas couper avec le même couteau la viande et le beurre, par exemple. Aujourd'hui, ça se passe encore dans les familles juives traditionnelles. Il y a des règles, par exemple, sur le contact des femmes, parce qu'elles ont leurs règles, mais qui sont incroyables dans la vie quotidienne, alors que c'était que... Bon, c'est simplement, ça rendait impur pour le culte au temple. Mais c'est pas dans la vie quotidienne. Mais alors là, il y a des règles incroyables. Est-ce qu'elle a le droit de faire la cuisine? Est-ce qu'elle a ses règles, ce genre de trucs? Enfin bon, des règles. Tout ça pourrait être dans un état de pureté dans ma vie quotidienne. Dans ma vie quotidienne, un état de pureté qui est celui du prêtre au temple. Et c'est comme ça que le pharisien comprend l'obéissance. Mon obéissance, qui me permettra de rester dans l'Alliance, est une obéissance marquée profondément par le rite, la pureté rituelle, qui fera que je serai près de Dieu chaque instant de ma vie. Bien. Là, on est tout à fait dans un autre contexte. Les œuvres qui sont demandées ici, nous allons voir, sont les œuvres de miséricorde, d'amour. Et c'est pas du tout, il n'est pas question de la circoncision ni de rituel, disons de pureté rituelle dans l'épître de Jacques. C'est tout à fait autre chose. On est dans un autre monde. Et Jésus, les paroles les plus dures que Jésus a eues sont précisément contre cette compréhension des œuvres qu'est la compréhension du pharisien, qui préfère les sacrifices à la compassion et l'amour. Si vous aviez compris ce que dit le prophète, je préfère l'amour et la compréhension et la compassion au sacrifice. Ce que dit le prophète. Bon. Et alors là, Jésus attaque cette compréhension, cette orthodoxie morte qui confesse et qui s'enferme dans un système de pureté rituelle. Ce ne sont pas des vraies œuvres, ce ne sont pas des œuvres telles que Jacques en parle. Ce sont des œuvres autres que les œuvres des pharisiens. Et Jésus s'oppose, et Jacques là s'oppose à ce type de compréhension des choses. Certains chrétiens évangéliques comprennent les œuvres de cette manière-là. Par exemple, ils vont être profondément culpabilisés parce que ce matin, ils n'ont pas pu faire leur culte personnel qui rituellement les rend proches de Dieu. Alors, ils vont être culpabilisés toute la journée. Mais ça, c'est du pharisaïsme. J'ai pas eu ma dose de pureté rituelle ce matin. Comme si Dieu m'aimait moins, était moins proche de moi et sa grâce n'était pas la même, même si je n'ai pas fait mon culte personnel. Qu'est-ce que ça? C'est pas ça qui change ma relation à Dieu. Ma relation à Dieu est une relation de vie. De vie. Et c'est pas une relation de pureté rituelle, de trucs qui vont me rendre rituellement pur. Et beaucoup d'évangéliques, beaucoup, peut-être des évangéliques, risquent de vivre leur vie chrétienne dans ce cadre d'une foi morte, d'une orthodoxie morte, qui est jalonnée par des exigences de pureté rituelle qui me rapprochent de Dieu. C'est de la foi. Tu crois en un seul Dieu, tu confesses tout. Bon, t'es réglo, c'est bien. Mais bon, comment s'authentifie-t-elle dans ta vie, cette foi? Tout à fait. Oui, alors chez les pharisiens, on trouve ça dans le Talmud, il y a des textes qui vous disent dans quelle mesure vous êtes tenu de donner au temple ou de ne pas donner au temple, de rembourser ou de ne pas rembourser. Il y a tout un ensemble de lois qui permettent en fait d'échapper à l'exigence d'amour et de miséricorde. Mes parents sont dans le besoin, mais amour, c'est au temple que je donne ou que je prête, c'est dans le trésor du temple que j'ai mis l'argent, je ne suis pas tenu de donner ça à mes parents. Je ne suis pas tenu de venir au secours de mes parents. Ce genre de choses. Et au nom d'une très grande spiritualité, on fait cela. Mais cette attitude, on peut la retrouver chez nous. Vraiment. C'est vraiment, il est malade, mon voisin, et puis il est vraiment, et puis il est seul, non, d'une pipe. Bon, moi j'ai l'étude biblique. Ce soir, je vais à l'étude biblique, voilà, la réunion de prière. Bon, c'est vrai que j'aurais pu prouver mon amour, mais bon, parce que, ah, mais non, mais moi, ce qui compte, c'est l'étude biblique. C'est là que je suis prêt. Mais bon, il est en train de crever chez lui. Bon. Oui, bon, je caricature, hein. Mais on pourrait. Qu'est-ce qu'une foi authentifiée par les œuvres? Qu'est-ce que sont ces œuvres-là? On va y réfléchir. Là, ça, on parle de foi. On n'arrive même pas à arriver aux œuvres. On parle de la foi. Et l'on voit que Jacques définit la foi qu'il critique comme une foi non authentifiée par les œuvres, une foi qui s'enferme dans une confession orthodoxe de la foi, mais qui n'a pas les œuvres dont il parle. On va voir quelles sont ces œuvres. Pardon ? Oui, justement. Excusez-moi. C'est le moment d'arrêter. La suite au prochain épisode.